Radio Saint-Ferréol et Erdiwa présentent Il est une vallée, une série non achevée de ce qui soutient la vie sur notre territoire.
Parole d'ici,
de là.
Quand tu vas t'intéresser aux choses, elles vont finir par te parler.
Voilà. On est hors de la zone inondation forte, on est dans l'espace de mobilité physique. Bon, l'espace de mobilité physique avait été bien adapté pour suivre un petit peu les lagunes. On est quand même en dessous des lagunes. Et après.
Alors, je ne sais pas si vous avez suivi le premier épisode de cette sortie nature, j'ai envie de dire, sur le site de lagunage de Luc Andiwa, avec Jérôme Mellet, le maire, le syndicat mixte de la rivière Drôme, le SMRD, l'association Biovallée, Ecophilae, une société de conseil en environnement, un agriculteur et la direction départementale des territoires.
Du fait de la facilité de se brancher sur le rejet.
Et ce que vous venez d'entendre, c'est l'extrait d'un échange entre Jérôme Duval, Cédric Proust du SMRD et Ecophilae qui réfléchissait un peu tout haut à l'emplacement que pourrait prendre ce site REUT, réutilisation des eaux usées, traitées, en sortie donc de la station d'épuration de Luc. Alors je vous le rappelle, on a entendu dans l'épisode précédent que l'idée que mène l'association Biovallée est de créer par endroit sur la vallée de la Drôme, enfin d'étudier les possibles pour que l'eau usée en période d'hiver puisse être stockée plutôt que de retourner aussitôt à la rivière puis à la mer, on le sait, en quelques jours. En hiver, oui, parce que le milieu naturel n'a pas besoin, disons-le comme ça, de cette eau usée traitée. Par contre, cette eau, comme cela se fait notamment du côté de Clermont-Ferrand, peut être gardée, conservée pour de l'arrosage en période d'étiage, pour l'agriculture notamment, ou particulièrement. Voilà l'idée. Alors, ne pas confondre avec les bassines qu'on trouve en Vendée, qui, elles, stockent de l'eau brute, pompée dans les nappes et qui ont comme effet d'assécher les marais, par exemple. Là, le SMRD est bien avec toute l'équipe pour veiller à ce que ces éventuelles installations REUT ne gênent pas le milieu naturel, la rivière, faune et flore. Mais écoutons juste un instant encore un peu là de quelle manière résonne justement ou travaille le SMRD. C'est intéressant, un peu technique mais passionnant. Une parole à peine volée ce jour-là autour du compteur de sortie des eaux usées du lagunage de Luc Andiwa, juste avant un retour à la rivière déchaînée. Tendez l'oreille.
Du coup, pour le SMRD, il y a plusieurs zones d'enjeu ici, ouais. Pour que tout le monde partage un peu les choses. Ouais. C'est qu'en 2012, dans ces années-là, il y a l'étude géomorphologique qui a été montée et qui devait estimer l'espace de liberté de la Drôme, l'espace où elle est passée, où et potentiellement elle va repasser. Donc la morphologie latérale, où elle peut balayer. Et du coup, dans ce cadre-là, avaient été définis deux espaces. Un espace maximum, donc c'est ce qui est en blanc, on va dire c'est l'espace à plusieurs milliers d'années où la Drôme est passée. C'est en fait où il y a du galet. En gros, c'est plutôt l'espace défini sur la géologie.
Bon, mais on ne va pas tout reprendre depuis le début. Continuons. Alors, c'est vrai que l'on peut aussi se poser la question, tout comme pour les méga-bassines de Vendée, à qui appartiendra cette eau donc stockée, quel impact, à quel prix, à quel coût et pour quelle agriculture, quel projet de société évidemment. Et je crois bien que ce sont des questions que se pose notamment l'association Biovallée qui anime ce projet. avez eu ta Luc, continuons la visite, partie 2. Ça s'est passé le mercredi 20 décembre 2023. On l'a déjà dit, BioVallée parle de projets collectifs d'intérêt territorial et ils y tiennent. Moi je dirais c'est un ensemble, c'est pour un ensemble et cet ensemble, et espérons-le que ce n'est pas faire semblant.
Mais de quelle agriculture parlons-nous ? Philippe Lagrange, vice-président à l'association BioVallée, référent REUT.
C'est pas simplement une agriculture pour l'alimentation. Hein. Nos agriculteurs continueront à planter du sorgho pour l'alimentation animale. Ils continueront à produire Il faut qu'ils continuent à pouvoir vivre de leur métier. Hein, donc il n'y aura pas que des maraîchers sur la Drôme, hein, c'est important, mais c'est un programme qui est plus large, et pour ça que dans les partenaires, on pourra en parler, il y a un partenaire important pour nous, qui sont les syndicats agricoles et la Chambre d'agriculture, avec leur site expérimental d'Étoiles sur Rhône, où ils réfléchissent effectivement sur du blé d'Afrique du Nord, de plantes beaucoup moins sensibles à l'eau, enfin voilà. Donc c'est effectivement, on construit une agriculture différente qui doit avoir deux raisons. Elle doit avoir d'abord une raison de sobriété dans ses usages de l'eau. On espère, mais bon ça, je veux dire, limitation des intrants. Quand vous faites effectivement de l'amendement organique, vous mettez moins d'intrants chimiques, hein. Voilà, mais faire en sorte aussi que nos agriculteurs puissent en vivre. Parce que je veux dire, ce ne sont pas aujourd'hui les ultra-capitalistes de nos propres métiers. Donc, et c'est pour ça qu'on a voulu dès le départ mettre beaucoup de gens autour de la table. Et il y a une réflexion qui est forte et qui se développe maintenant sur toute la vallée, la 3CPS, puis demain la CCD, sur les projets qu'avait initiés, mais Jean Sorel vous en parlera mieux que moi, sur agriculture-alimentation, ce qu'ils ont appelé les schémas entre parenthèses de rupture agricole, parce qu'ils ont osé parler de ce mot-là, mais ils l'ont mis entre guillemets. Mais on est sur une rupture, je veux dire, il faut bien avouer, on parle de dérèglement climatique, mais on ne va pas faire un angle de 5 degrés, quoi. Il va falloir qu'on change de pratique culturelle. Vous n'êtes pas sans savoir, par exemple, si vous lisez un peu la presse agricole, il y a beaucoup de travail aujourd'hui sur les semis directs, où on ne retourne plus les sols. On sème dans la terre qui n'a pas été retournée. Hein, donc bah, ça demande de travailler différemment. C'est effectivement, allez, on va le mettre entre parenthèses, une rupture agricole. Mais plutôt que ça soit une rupture où il y ait des gens dans un bureau à Lyon ou à Paris qui disent « voilà, c'est comme ça qu'il faut le faire », nous, on a choisi le fait de dire « mettons-nous tous autour de la table ». Quelle agriculture vous pourriez continuer à produire demain avec les intelligences de l'INRAE, des syndicats agricoles, de la Chambre d'agriculture, quels moyens mettre en œuvre en fonction de ça, développer des ressources en eau qui vous permettent effectivement de développer cette, entre parenthèses, nouvelle agriculture. Hein, mais ils y sont déjà engagés. Vous verrez des gens comme Ludovic Blanc, ils vous diront pas le contraire.
Eh bien voilà, c'est dit, c'est enregistré, c'est entendu, c'est conservé. Eh bien maintenant, continuons à étudier ce projet avec Ludovic Blanc que nous sommes allés rencontrer là-bas, chez lui, dans la campagne de Cré.
Alors c'est... vous êtes allé trop loin, je pense.
Ok.
Il y avait un peu des trous.
Ouais. Voilà. Là, j'ai repris la route du retour.
Toujours en territoire BioVallée, comme ils l'appellent.
Je passe à côté d'un grand terrain agricole. Là, sur la droite. Sans doute chez vous.
Oui, c'est
Les communs.
Et les ailes, effectivement, vous avez un kangou ou un marengo.
Ouais.
Effectivement, c'est sur votre gauche, tout de suite là, à 10 mètres.
Ok.
Et vous pouvez vous monter, vous partir complètement derrière la maison.
D'accord.
Pour activer la porte d'entrée, on a l'accès qui est un peu déporté.
Je crois que je ne fais pas.
Vous pouvez monter
Ouais.
À tout de suite.
À tout de suite.
Je suis donc Ludwig Blanc, je suis un élu sur la commune de Chabriant, adjoint en charge de l'eau potable et je m'occupe également, je suis référent par ce rôle d'élu au niveau du syndicat d'irrigation Dromois qui s'occupe de l'irrigation collective sur le bas de la vallée principalement.
Et vous êtes également agriculteur.
Effectivement, je suis avant tout agriculteur effectivement depuis une vingtaine d'années sur l'exploitation familiale. Voilà, en polyculture élevage. J'ai un salarié partagé avec un voisin. L'exploitation compte une quarantaine d'hectares en 2023, avec une petite dizaine de cultures, on va dire, des cultures diversifiées. Je suis en conventionnel, en espérant que ça parle à tout le monde. Quoi vous expliquer ? Je produis de l'ail principalement, qui est ma culture phare. Je produis également des semences de tournesol, de maïs, aussi de petites graines potagères. Cette année, j'avais de la chicorée et des navets en production également sur une toute petite surface. Et à côté de ça, j'ai aussi des céréales donc à paille, donc du blé principalement. Et j'ai également un élevage de volailles pour la viande.
Ce syndicat d'irrigation Dromois, qui est-il et qu'est-ce qu'il défend ?
Alors ce syndicat, il a une dizaine d'années d'existence, donc c'est un syndicat départemental qui regroupe les anciens syndicats intercommunaux qui ont été créés chacun avec leur histoire et chacun avec leur raison pour structurer l'irrigation en mode collectif du nord au sud.
Et donc ce syndicat d'irrigation Dromois, en quelques chiffres, il dessert 26 000 hectares de terres agricoles sur 125 communes. Je vous en cite quelques-unes. Bon, c'est surtout le long du Rhône, avec Valence, bien sûr, Montélimar, Haute-Rive, tout là-haut, mais aussi plus proche de la rivière Drôme, Livron, Chabriant, bien sûr, Grane ou Cré. Autant de délégués que de secteurs, au bureau un président et 9 vice-présidents, beaucoup d'hommes dans ce syndicat, hein. Un directeur et 47 employés qui gèrent au quotidien l'ensemble du réseau. Alors combien de kilomètres de tuyaux, j'ai pas demandé, combien d'adhérents non plus. Finalement beaucoup de questions qu'il faudrait prendre le temps d'explorer pour bien comprendre ce qu'est ce syndicat et ce qu'il défend profondément et dans sa globalité. Mais revenons avec Ludwig Blanc, notre correspondant local, disons-le comme ça.
J'ai la responsabilité, entre guillemets, ou j'ai la charge de représenter ceux qui sont sur notre bassin versant de la Drôme, en rive droite et en rive gauche, et à l'aval de Cré. Il n'y a pas de réseau collectif en amont de Cré, donc voilà, c'est sur ce périmètre-là que j'ai une mission, entre guillemets. Donc l'objectif de ce syndicat, c'est de distribuer de l'eau pour l'irrigation de toutes les cultures qui le nécessitent, principalement l'été, mais on se rencontre avec l'évolution des saisons, des besoins, des cultures, des pratiques, que ce besoin d'irrigation, il s'étale. Avant, il était concentré sur l'été, sur juillet et août, principalement même sur juillet. Aujourd'hui, on a de l'irrigation qui démarre au 15 mars et qui se termine fin octobre, avec des rythmes complètement variables suivant le besoin des cultures. Mais le site est avant tout un outil de distribution. C'est une pompe avec des tuyaux et une vanne au bout, pour faire simple. Et à l'utilisateur qui est abonné de respecter les règles aussi, et d'abord, si je puis dire.
L'eau que distribue le syndicat pour ce qui est de la zone au nord de la rivière, donc avant Cré, ou en rive droite, vient principalement du Rhône, avec un soutien par le canal de la Bourne, de l'eau d'Isère. Et en rive gauche, Cré Sud, lui, est alimenté presque uniquement par la rivière. Alors, pour ce qui est de pomper donc dans la Drôme, ben, comment c'est contrôlé, comment c'est limité, surveillé, disons, Ludwig Blanc.
Le site a un volume d'eau à respecter à l'année et par période. La période estivale est très encadrée sur les volumes globalement possibles à prélever. Ça, c'est un cadre général auquel il s'ajoute le débit de la rivière à l'instantané. À chaque moment, si la rivière baisse en niveau, il y a des règles qui peuvent s'appliquer forcément à la baisse, puisque c'est ce qu'on surveille, en lien avec aussi les arrêtés préfectoraux, en lien avec les surveillances qui sont faites par le SMRD. On est très épaulé et on travaille aussi en partenariat sur des mesures très très régulières de la rivière quand le besoin s'en fait sentir. Donc ça, c'est la partie prélèvement du syndicat d'irrigation. Et après, les irrigants qui sont abonnés ont un volume d'eau, entre guillemets, souscrit, ou tout du moins qui ont un contrat avec le syndicat d'irrigation qui établit des règles, c'est-à-dire qu'on ne prend pas autant d'eau qu'on le veut. Il y a un abonnement qui est figé depuis les années 90, c'est-à-dire qu'il y a un volume attribué à chaque exploitation en lien avec son niveau d'abonnement. Donc quelqu'un qui a 3 hectares d'abonnement, il a un volume qui va en face, mais celui-ci peut être réduit à la baisse du fait des contraintes estivales en termes de débit de la rivière. Donc il y a forcément un cadre, et quand bien même une année serait moins contrainte, comme on l'a connu en 2021, dans tous les cas, il y a des maximums à ne pas dépasser. Et si on a des exploitations qui oublient de regarder ces volumes d'eau, il y a des pénalités en face qui sont très importantes.
Mais au-delà du syndicat d'irrigation drômois, bon, un peu complexe à comprendre, difficile, je vous l'avouerai, à bien cerner, bon, il me semble intéressant d'écouter M. Ludwig Blanc, l'agriculteur en conventionnel, comme il dit. Parce que oui, son discours est sensible et il permet d'entendre un peu de ce qu'est la réalité du monde agricole, certainement en volume, d'ailleurs le plus important en France, hein, et qu'il faut bien entendre parce qu'il y a un paquet d'hommes et de femmes qui, dans ce milieu, oui, cherchent et se posent des questions. Ben, alors, des questions au sujet de la manière dont on peut faire de l'agriculture, comment on peut apprendre encore à faire, oui, des cultures sur des surfaces relativement grandes, hein, ou étendues, et qui donc ont la nécessité de beaucoup d'eau au moment de l'arrosage, et puis de matériel aussi très onéreux. Et il y a dans cette communauté d'agriculteurs et agricultrices, ben en Drôme en tous les cas, une réelle prise de conscience des dérèglements climatiques. Et on entend là avec Ludwig Blanc combien tous et toutes cherchent. Veulent faire au mieux en tous les cas. Tous et toutes, bon, c'est peut-être excessif, mais enfin, un grand nombre en tous les cas.
Effectivement, la ressource est de plus en plus contrainte. On est vraiment dans l'explication grandeur nature de l'évolution climatique. Certains l'appellent changement, d'autres aggravation, d'autres... voilà. On est dans cette évolution climatique qui amène des contraintes différentes d'il y a 20 ans. Et donc, les niveaux de prélèvement d'eau sont contraints et il faut qu'on s'y adapte. C'est ce qu'on fait chaque année depuis 30 ans. Moi, dans mon ADN, quand j'étais tout petit, mes parents avaient déjà cette contrainte. Dans la fin des années 80, quand les réseaux d'irrigation se sont créés, je me souviens déjà d'avoir cette problématique de tours d'eau, de rivières qui s'asséchaient ponctuellement un été sur 10 ou sur 15 et qui amenaient des questions et qui amenaient des problématiques là où, au contraire, justement, l'organisation en réseau d'irrigation devait apporter des solutions.
Alors là, on comprend un peu comment ils ont créé le CID dans les années 80. Plutôt que d'arroser chacun de leur côté, ils se sont rassemblés autour d'un syndicat en irrigation agricole, finalement. Et depuis, Ludwig et les autres se sont formés et ont développé un certain nombre de réflexions, de compétences en agronomie. Et ça a l'air très compliqué. Enfin, c'est ce que j'ai compris dans l'extrait de notre conversation qui va suivre. Là, le maïs, tiens, parlons-en, quelle sacrée culture que celle-là, n'est-ce pas, Ludwig Blanc ?
Le maïs est une culture formidable pour amener de la matière organique au sol, pour faire de la vie et pour permettre dans une rotation, donc c'est dans un cycle de 4, 5, 8 cultures sur 8 ans, voire plus, parce qu'aujourd'hui on intègre beaucoup d'intercultures entre deux cultures qui vont être récoltées, que ce soit un blé. Après un blé, on va peut-être mettre une culture hivernale, que ce soit une févrole, une vesse ou une graminée, qui va ou non servir à l'alimentation animale en pâturage pour ceux qui ont des brebis. Et après, on va pouvoir implanter une culture de printemps, que ce soit un sorgho, un tournesol ou un maïs ou un soja. Donc on va avoir peut-être sur 8 ans, on va peut-être avoir maintenant 16 cultures et qui vont amener de la vie au sol. Et si on n'a pas de l'irrigation pour sécuriser certaines de ces cultures au milieu de cette chaîne, ça ne marchera pas, ça marchera moins bien et on met beaucoup de choses à mal. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est un pilier sur l'exploitation. Moi, je tends à chercher des solutions pour m'en affranchir partiellement. Mais comme je l'ai dit dans mon rôle d'élu assez récemment en commission locale de l'eau, je ne vois pas comment, tous autant qu'on est dans notre jardin, on peut envisager de faire pousser une tomate si on n'a pas un arrosoir pour compléter à un moment dans l'été. L'irrigation, c'est ça, pour moi.
Alors, on a entendu que le travail d'agriculteur était devenu extrêmement complexe et que tous ces gens, qu'ils soient en conventionnel ou en bio, ont développé des capacités techniques ou de connaissances du vivant tout à fait remarquables. Alors, il le disait, pas d'agriculture sans irrigation, sans chercher des solutions et réutilisation des eaux usées et traitées. Pour Ludwig Blanc, c'est intéressant, c'est une des solutions, de son point de vue, à étudier très sérieusement. Il y croit. Et il s'exprimait là, en tant qu'élu à la mairie de Chabriant, agriculteur polyculture, élevage et conventionnel, comme il dit, et référent du syndicat d'irrigation de Romois sur le secteur de Cré. Mais je propose maintenant qu'on se rende pour continuer l'exploration de ce sujet à la chambre d'agriculture de Bourg-les-Valences où monsieur François Duboc, technicien conseiller agricole irrigation, m'avait donné rendez-vous. J'ai rendez-vous avec François Duboc.
Et bonjour, c'est moi.
C'est vous.
Enchanté.
Bonjour, merci.
Alors, allez, on va s'installer. On va trouver une salle.
Super. Je
allez,
vous suis.
Suivez-moi.
Voilà. Et la première question que je lui ai posée, c'est à quoi ça sert une chambre d'agriculture et qu'est-ce que c'est finalement?
Alors, les chambres d'agriculture, cette année, ont 100 ans, justement. On va fêter en 2024 les 100 ans d'existence.
François
Donc,
Duboc.
Les chambres d'agriculture, c'est l'équivalent des chambres de commerce et d'industrie pour les agriculteurs. Donc, il y a une chambre d'agriculture dans chaque département. Et ensuite, on est au service des agriculteurs. Donc sur la chambre d'agriculture de la Drôme, on a une agriculture qui est très diversifiée, donc on a des techniciens sur les productions animales, sur les productions végétales, et on fait du conseil, de la formation et un petit peu d'expérimentation aussi.
Et expérimentation, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous faites là, à cet endroit-là?
Alors c'est très très varié hein, puisqu'on a à peu près 80 personnes, donc c'est des essais à la fois sur le végétal, sur les fourrages, on a plusieurs fermes expérimentales, une à Étoile-sur-Rhône, une à Mévouillon, donc à Mévouillon c'est plus sur les productions, plantes aromatiques, petite épeautre, culture du sud, montagne sèche, des baronnies. Et sur Étoile, on est sur des essais sur l'évolution, le changement climatique, les cultures qui consomment moins d'eau, l'agroforesterie. Et puis après, bon, on a des essais sur l'irrigation, sur des cépages qui sont plus adaptés à la sécheresse. Enfin voilà, après, je ne les connais pas tous, mais c'est très très large.
Et donc à la Chambre d'agriculture, mais c'est ce que François Dubox m'a expliqué, on peut avoir toutes sortes de conseils, être accompagné pour ce qui est des dossiers réglementaires, profiter de formations collectives ou individuelles. Et il s'adresse à l'ensemble des agriculteurs en conventionnel ou en bio sur le département. Et c'est lors de formations, par exemple, que tous ces hommes et ces femmes agriculteurs et agricultrices se rencontrent. Mais imaginant le monde agricole par moments en grande détresse, j'ai tout de même voulu avoir un mot de François Dubox, conseiller irrigation de la Chambre d'agriculture drômoise.
D'un point de vue général, voilà, l'agriculture traverse une crise importante. Donc il y a plusieurs facteurs. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, il y a le changement climatique, voilà, avec des aléas climatiques qui se répètent. Donc dans le département, on peut citer le gel, la grêle, la sécheresse. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Et puis en même temps, après, il y a l'aspect économique. Là, c'est vrai que sur 2023, on a beaucoup de filières qui sont en crise. Et on a beaucoup d'agriculteurs voilà, qui ont du mal à dégager des revenus viables.
Alors je vous préviens, la question que j'ai posée à cet instant de notre échange a provoqué une longue réponse technique, mais qui est très intéressante parce qu'elle permet de bien entendre combien la question de l'arrosage est extrêmement complexe. Oui, ça on le sait, puis c'est depuis la nuit des temps, mais tout de même. Et puis, pour arroser, parce qu'ils le souhaitent, ces agriculteurs, hein, continuer à arroser leur culture, effectivement, ils sont prêts à imaginer des toutes sortes de solutions, et notamment celle donc de pouvoir stocker de l'eau, et le réhut en fait partie. Voilà, donc c'est sûr que il faudra continuer à suivre ce projet là et ce désir finalement de bassines sur le territoire. Mais continuons à écouter François Dubosc et de sa réponse à cette question-là, eau et agriculture, quelle est la réalité des agris du bas de la vallée?
Alors, pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que le bassin de la Drôme, voilà, la Drôme, c'est un torrent, c'est un cours d'eau de type méditerranéen. Donc on peut avoir des fortes crues et on peut avoir des étiages très sévères. Voilà, ça c'est pas nouveau. Le phénomène s'accentue avec les sécheresses plus importantes, la température qui augmente, un peu moins de neige ou de la neige qui fond de plus en plus tôt. Et puis également une rivière qui fonctionne un peu à l'envers, c'est-à-dire en aval de craie, la rivière alimente la nappe. Donc, on a moins d'eau à la confluence avec le Rhône que à Saillant ou à Craie. Donc, ça, c'est un petit peu la spécificité de cette rivière. Et on a une agriculture qui est très, très diversifiée. Donc, bon, je ne vous fais pas de dessin. On est quand même dans le sud de la France. On a une demande climatique et des besoins en eau, et l'agriculture, les produits qu'on consomme, c'est ni plus ni moins que des produits de l'eau transformée. Donc il faut de l'eau, il faut de l'irrigation. Donc l'irrigation, elle existe de longue date. Il y a plusieurs réseaux d'irrigation qui se sont développés sur l'aval. On a des prélèvements qui sont plus importants sur l'aval que sur l'amont. On a également des petites retenues collinaires dans le Diwa. Et puis, depuis, 2003, la première grande sécheresse sur le département, on a toute une contrainte, des contraintes réglementaires qui se sont mises en place. Aujourd'hui, en 2023-2024, l'agriculture dispose d'un volume d'eau défini pendant la période d'étiage. Voilà, donc il faut faire avec ce volume. L'agriculture s'est beaucoup démenée ces dernières années pour trouver des solutions. Donc il y a eu des grands aménagements. Donc les principaux, il y a eu une grande réserve qui a été faite à Montméran, une réserve qui fait 700 000 m3. Et c'est une réserve qui permet d'amener de l'eau du bassin de la plaine de Valence avec l'eau de l'Isère et de la Bourne et qui permet d'arroser le secteur de Cré. Ouais. Donc ça a été fait en 2006. Et très récemment, il y a l'eau du Rhône qui arrive également sur Alex-Montoison et jusqu'à Cré. Voilà, donc ça, c'était des travaux qui ont été menés par le syndicat d'irrigation drômois. Donc ces deux réseaux d'irrigation font à peu près 500 hectares chacun. Voilà, ça fait que sur le bassin de la Drôme, il y a pratiquement 2 millions de mètres cubes qui ne sont plus prélevés dans la rivière aujourd'hui. Voilà, donc tout ça, ça va dans le bon sens. Le souci étant, c'est que on a voilà, ce réchauffement climatique qui s'accentue à vitesse grand V et on a des prélèvements agricoles qui continuent d'augmenter. Ce qu'il faut mettre en avant, c'est aussi l'adaptation de l'agriculture sur ce bassin. Voilà, les cultures ne sont pas du tout les mêmes qu'il y a 10 ou 20 ans. On a par exemple une forte diminution du maïs, maïs grain et maïs semence. On a perdu 700 hectares en 10 ans, par exemple. Voilà, donc ça, les gens n'ont pas forcément conscience. Mais on a une grosse évolution des cultures irriguées sur le territoire. Voilà, donc les difficultés aujourd'hui, c'est faire face à ce changement climatique. Et puis faire avec le volume dont on dispose. Et sur le secteur comme sur Cré Sud qui continue de prélever dans la Drôme, d'un point de vue réglementaire, quand le débit est très bas, on doit laisser toute l'eau à la rivière. C'est ce qu'on appelle le respect du débit réservé. Donc le débit réservé, en fait, c'est une valeur qui correspond à 10% du volume moyen interannuel. Donc voilà, pour faire simple, quand on atteint ce débit dans la Drôme, on doit cesser les prélèvements. Donc ça, c'est vrai qu'au niveau agricole, quand vous avez mis en place des cultures, c'est très très compliqué. Et puis derrière, il y a toute l'économie, le revenu d'une année sur les exploitations. Voilà, donc... Donc c'est pour ça que le projet de réhut ou les projets de stockage sont quelque chose qui intéresse le monde agricole.
Et voilà, et c'est peut-être là qu'il pourrait y avoir un amalgame ou des incompréhensions. Bassine d'eau brute ou bassine d'eau usée traitée, c'est pas la même chose, ça se ressemble et ça pose forcément des questions. Mais en quoi c'est différent finalement ? C'est bien une question qu'il faudra poser. Mais rappelons-nous, il y a dans cette histoire de bassines, qu'elles soient réhut ou pas, BioVallée, Ecophyllae et le SMRD avec son schéma d'aménagement de gestion de la rivière Drôme écrit par la commission locale de l'eau et qui fait donc cadre. En gros, on ne peut pas théoriquement artificialiser des sols avec une bassine réhut, par exemple, si elle gêne les cours d'eau ou les nappes. Alors, quels sont les freins à l'installation de bassines ou de réserves réhut ? François Dubosc en sait quelque chose.
Je pense qu'il y a deux volets. Il y a l'aspect du coût. Donc ça n'a pas été encore bien abordé. Ça va arriver en 2024 là, dans cette étude de faisabilité. Le souci du stockage, qu'il soit pour la réhut ou pour, parce qu'on peut aussi stocker de l'eau en hiver par la Drôme. Hein. Là, on parle de réhut, mais... Les irrigants de Cré Sud, ça fait quelques années qu'ils ont l'idée de stocker de l'eau. Donc, on est quand même sur du stockage. On peut stocker de l'eau avec la Drôme. Voilà, donc, il y a le problème du coût Et le stockage, voilà, quand on dit il suffit de stocker de l'eau, non, c'est pas si simple parce que ça coûte très très cher. Donc il faudra voir premièrement combien ça coûte, deuxièmement les financements qu'on pourra avoir derrière. Voilà, donc il y a cette histoire déjà du coût, parce que les agriculteurs, je pense qu'ils sont prêts à aller jusqu'à un certain niveau, mais voilà, si c'est très très cher, ça se fera pas. Et après, il y a tous les aspects réglementaires. On l'a dit, on est sur un territoire où il y a quand même pas mal d'agriculture biologique, il y a pas mal de maraîchage, il y a pas mal d'arboriculteurs. Donc sur l'agriculture biologique, là, au jour où on se parle, on ne sait pas si on a le droit d'utiliser les eaux usées traitées des stations d'épuration. Voilà, on a posé la question à l'INAO, qui est l'autorité compétente, on n'a toujours pas de réponse. A priori, il y a un groupe de travail qui planche dessus, mais voilà, ça c'est un frein important. Ensuite, sur la réglementation, il y a un arrêté qui est sorti en fin d'année. Alors bon, moi je ne suis pas spécialiste, hein, mais il faudrait poser la question à Ecophilae. Mais a priori, il subsiste encore beaucoup de contraintes. Voilà, il faut avoir une qualité des eaux irréprochable si on l'utilise sur des cultures vivrières qui sont consommées crues. Donc ça veut dire qu'il faudra faire des analyses toutes les semaines. Qui c'est qui va payer les analyses? Qu'est-ce qu'on fait si les analyses ne sont pas conformes? Donc il y a ça. Ensuite, bon, sur les territoires dont on a parlé, on est quand même essentiellement sur de l'irrigation par aspersion. Et comme il y a quand même du vent, des aérosols, il y a des contraintes dans cet arrêté de fin décembre sur des conditions ventées. Voilà, dès qu'il y a trop de vent, on ne pourra pas l'utiliser. Et on ne pourra pas l'utiliser en bordure de route, en bordure de maison, en bordure de jardin, en bordure de cour, en bordure de bâtiment public, privé. Voilà, donc si on est obligé d'utiliser deux réseaux, voilà, si les contraintes sont trop fortes, c'est quelque chose qui n'aboutira pas, quoi.
Et du coup, là, ces contraintes, où est-ce que ça se joue tout ça? À quel endroit elles se trouvent, ces contraintes? Ça se passe au niveau de l'État?
Alors, il y a deux niveaux. Il y a une réglementation européenne et après, il y a une réglementation spécifique à chaque État. Donc, bon, on avait vu qu'il y avait une volonté politique. Macron à Serre-Ponçon qui avait annoncé là, l'été dernier effectivement qu'on était vraiment très très loin sur la réutilisation des eaux usées. Mais on a l'impression que les textes ne suivent pas, quoi. On a l'impression que derrière le texte, moi j'ai l'impression qu'on a les mêmes contraintes qu'avant. Donc j'ai l'impression que d'un côté on proclame qu'il faut plus utiliser les eaux usées traitées, mais derrière les contraintes sont fortes et risquent de bloquer beaucoup de projets. Voilà, on ne va pas utiliser du goutte à goutte sur 100% des surfaces d'ici 2 ou 3 ans. Voilà, vu les cultures qu'on arrose, les enrouleurs, la couverture intégrale, voilà, ce sont du matériel beaucoup plus polyvalent, quoi.
Oh, je vous propose qu'on s'arrête là, les amis de RDY et Radio Saint-Ferréol réunis. Bon, bah, on a entendu tout de même que l'installation de ces bassins réhutes, bah, ça allait pas être simple. Il y avait et que oui, on n'était pas encore là au point de pouvoir les réaliser. Par contre, on a entendu qu'il y avait tout plein de questions encore à poser, que c'était important qu'on prenne le temps de les identifier, ces questions, et qu'on les comprenne bien, et pour que tous et toutes partagent en effet ce projet d'intérêt collectif, donc que mène l'association BioVallée. Voilà, et donc ce réhut à Luc, eh bien oui, il vient nous interroger sur tout plein de choses, et évidemment... notamment sur le fait que qu'on a à réfléchir à notre projet de société, quoi. Hein, ça c'est certain. Et quand est-ce qu'on va s'y mettre? Alors entre tous, paysans, agriculteurs, hommes, femmes, consommateurs, consommatrices, citoyens, citoyennes. Ben oui, ça veut dire quoi faire de l'agriculture? Pour quelle alimentation? Comment on peut s'en emparer un peu tous et toutes pour défendre aussi, hein, celles et ceux qui font cette agriculture et l'alimentation, finalement, parce que sans eux, ben, on n'aurait rien à manger, c'est bien possible. Alors, cette alimentation, cette agriculture, ben, qu'est-ce qu'elle vient défendre comme projet de société? Et alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire un projet de société? C'est ce que nous verrons dans les prochains épisodes réalisés, qu'on va réaliser aux Rencontres de l'écologie, là, à 10, sur ce mois de janvier. Donc, ben, à tout bientôt sur RDIWA et Radio Saint-Féréol. C'était donc une série Eau et Agriculture, REUT, SMRD, Chambre d'Agriculture, Ecophilae, le syndicat d'irrigation Dromois. Et merci à vous tous et toutes, oui, de nous avoir confié vos voix. Voilà, c'était une réalisation RDIWA, la radio du DIWA, une série financée par l'association BioVallée. On se retrouve la semaine prochaine. À tout bientôt et bonne suite de journée, de soirée, de vie, quoi. Allez. Et je vous laisse avec un titre d'Agustín Barrios, un des grands guitaristes qui a composé notamment la cathédrale, l'eau. Alors ce serait ça, la cathédrale, l'eau, la matière, eau, dans laquelle on peut se baigner, se plonger, qu'on peut boire. C'est du cristal à l'état liquide. Et on a la chance d'avoir ça sur cette planète qui s'appelle la planète Terre. Pour cet épisode, grand merci à Ludwig Blanc et à François Dubox. Ah oui, une dernière chose, j'oubliais, si vous avez des questions au sujet de ce projet réutilisation des eaux usées traitées à nous soumettre, n'hésitez pas à les écrire et à les envoyer à contact@rdiwa.fr. On essaiera de s'en inspirer. Allez, à tout bientôt.